58%.
C'est un chiffre assez...
C'est énorme, hein? Oui. En fait, c'est le nombre exact de décisions stratégiques qui échouent. Et attention, pas à cause d'un marché imprévisible ou d'une technologie défaillante, ni même d'un manque de financement.
Non, c'est bien plus profond que ça.
Exactement. Ça échoue à cause de la façon dont notre propre cerveau est biologiquement câblé. En général, quand on évoque la prise de décision dans le monde professionnel, on a tous cette attente d'une sorte de précision clinique.
Ah oui, complètement. Le fameux mythe de la rationalité.
Voilà. On imagine une grande salle de conseil d'administration, avec des tableaux de bord financiers impeccables, des graphiques qui pointent tous vers la rentabilité, et un comité qui choisit de manière vraiment chirurgicale l'option la plus logique.
Bah, c'est un mythe incroyablement tenace, en fait. C'est un processus que l'on perçoit souvent comme binaire, net, parfaitement rationnel. On pèse le pour, on pèse le contre, et hop, la logique pure l'emporte systématiquement.
C'est vrai que c'est sécurisant.
Bien sûr, c'est une vision très réconfortante. On adore l'idée que les situations complexes soient entièrement sous notre contrôle, qu'elles soient visibles et catégorisables.
Oui, c'est rassurant de croire que nos dirigeants, ou même que nous-mêmes d'ailleurs, hein, sommes aux commandes absolues de notre intellect. Mais, et c'est là tout l'enjeu, lorsqu'on s'aventure dans les coulisses de la psychologie comportementale appliquée au management, eh bien, ce fameux tableau de bord rationnel vole complètement en éclats.
Il explose même.
Cette analyse détaillée, qui est consacrée aux biais cognitifs en entreprise et à leur impact sur le processus de décision, est directement tirée de l'espace de ressources lesclésdumanagement.com.
Une excellente source, très documentée.
Absolument, c'est la boussole de notre réflexion d'aujourd'hui.
Et notre mission pour cette plongée au cœur de ces sources, c'est vraiment de décortiquer les mécanismes invisibles qui gouvernent les réunions, les recrutements et les stratégies. L'objectif, ce n'est surtout pas de lister ces phénomènes comme un vieux catalogue médical ennuyeux.
Non, surtout pas.
Voilà, c'est de comprendre la mécanique sous-jacente, pourquoi ces raccourcis existent, comment ils opèrent silencieusement dans l'ombre et quelles sont leurs conséquences réelles sur la survie même d'une organisation.
Très bien, décortiquons tout cela. Avant d'analyser la manière dont notre intellect nous piège, il faut d'abord comprendre le terreau sur lequel ces illusions prospèrent. Et pour cela, nos sources s'attaquent d'abord à une figure un peu légendaire.
La fameuse figure du décideur parfait.
C'est ça.
En théorie économique classique, ce décideur parfait porte un nom, c'est l'homo economicus. En fait, c'est le postulat très séduisant d'un acteur qui serait parfaitement rationnel.
Une sorte de robot, en fait.
Un peu, oui. Un être qui disposerait d'une information totalement complète sur le monde, qui serait capable de calculer toutes les options possibles en temps réel, d'en anticiper toutes les conséquences et de sélectionner invariablement la décision qui maximise son intérêt. Une véritable machine à calculer, quoi.
C'est fascinant de se dire que cette théorie justifie encore aujourd'hui une grande partie des processus d'entreprise. Ça cautionne cette réunionnite aiguë qu'on connaît tous et qui donne cette fausse illusion de rigueur et de contrôle.
Absolument.
Sauf que personne ne fonctionne ainsi dans la vraie vie. Et c'est là qu'interviennent les travaux fondamentaux de l'économiste américain Herbert Simon, qui a d'ailleurs été récompensé par le prix Nobel en 1978. Herbert Simon détruit complètement cette notion de rationalité parfaite.
Il la pulvérise.
Oui, pour introduire un concept beaucoup plus réaliste, ce qu'il appelle la rationalité limitée.
Et cette trouvaille d'Herbert Simon, elle est vertigineuse de pragmatisme. Il prouve de manière implacable que, face à un problème complexe, l'être humain ne cherche pas la solution optimale, en fait. Il cherche une solution satisfaisante.
Nuance très importante.
Exactement. Ce compromis, ce n'est pas le fruit d'une paresse intellectuelle, attention. Il est dicté par trois contraintes structurelles qui sont totalement incompressibles. La première, c'est que l'information est toujours incomplète.
Forcément. L'entreprise évolue dans le brouillard en permanence.
C'est ça. La deuxième, ce sont nos propres limites cognitives. Notre cerveau humain, aussi brillant soit-il, eh bien, il ne peut pas traiter des milliers de variables probabilistes simultanément sans saturer. C'est physiquement impossible.
Et il y a cette troisième contrainte qui est tellement familière à tous les professionnels, le manque de temps.
Oh oui.
Les agendas surchargés, les pressions du marché, les réponses qu'on exige de nous dans l'heure. Et cette pression temporelle a d'ailleurs donné naissance à un modèle organisationnel que je trouve fascinant. C'est un modèle ajouté par les chercheurs Marsh, Cohen et Olsen en 1972, qu'on appelle le modèle de la poubelle.
Le garbage can model, oui.
Voilà. En gros, quand une organisation manque cruellement de temps, d'informations et de capacités de traitement, eh bien le processus décisionnel devient erratique. La grande décision stratégique n'est pas du tout prise après une analyse exhaustive. Elle est prise à la hâte, entre deux portes.
Dans le couloir, en allant prendre un café.
Exactement. Simplement parce qu'elle apporte une solution immédiate à un problème urgent. C'est vraiment la décision poubelle.
Ce contexte de rationalité limitée, c'est littéralement la porte d'entrée idéale pour les biais cognitifs. Et pour bien comprendre leur nature, il faut se tourner vers les travaux d'Amos Tversky et de Daniel Kahneman. Kahneman ayant d'ailleurs reçu le prix Nobel en 2002.
Ah oui, incontournable.
Leurs recherches bouleversent totalement notre compréhension de l'erreur. Un biais cognitif, ce n'est pas un bug du cerveau.
Ce n'est pas une panne.
Non, ce n'est pas un dysfonctionnement. C'est une heuristique, c'est-à-dire un raccourci mental programmé que le cerveau emprunte de manière quasi systématique pour décider vite et économiser ses ressources.
D'ailleurs, le document source qu'on explore aujourd'hui met en lumière 5 raisons fondamentales pour lesquelles notre architecture cérébrale a développé ces fameux raccourcis. La première explication, elle est d'ordre évolutionniste et elle nous ramène très loin en arrière.
Oui, parce que l'humanité n'a pas survécu en réalisant des analyses de données complexes face au danger.
J'imagine bien la scène dans la savane.
Bah, c'est ça. Face à un bruit soudain, nos ancêtres ne calculaient pas la probabilité qu'il s'agisse du vent ou d'un prédateur affamé. Ils fuyaient, point.
C'est le réflexe de survie immédiat.
Vital, oui. Mais le problème, c'est que ce même réflexe qui nous sauvait jadis devient un piège redoutable lorsqu'il s'active aujourd'hui autour d'une table de négociation.
C'est clair. Et la deuxième explication justifie le pourquoi de ce réflexe. C'est simplement une question d'économie d'énergie. En fait, notre cerveau, il représente à peu près 2% de notre masse corporelle, mais il consomme à lui seul 20% de notre énergie totale. C'est faramineux.
C'est un organe extraordinairement gourmand. Donc, pour éviter l'épuisement, le cerveau est devenu un maître absolu de l'optimisation. Il coupe volontairement les processus analytiques lourds dès qu'il en a l'occasion.
Il débranche la prise.
Voilà. Les biais sont simplement le prix à payer pour cette efficacité énergétique. Ce qui nous mène à la troisième cause, qui est l'émotion.
Ah, l'émotion.
L'architecture de notre cerveau fait que l'amygdale, la zone qui gère nos réactions émotionnelles, traite l'information bien avant le cortex préfrontal, qui lui est le siège de la pensée rationnelle.
Donc on ressent avant de réfléchir.
Exactement. La peur de l'échec, l'enthousiasme démesuré pour un nouveau produit, ou juste la sympathie pour un collègue, tout ça agit comme des filtres déformants avant même que l'analyse logique ne commence.
Ensuite, il y a la dimension sociale, qui est la quatrième cause mentionnée. En fait, l'être humain est programmé pour appartenir à un groupe.
L'exclusion, c'était la mort.
C'était littéralement la mort à l'époque préhistorique. Donc, nous privilégions instinctivement les décisions qui maintiennent la cohésion sociale, quitte à fermer les yeux sur des faits totalement dérangeants. Et enfin, la cinquième raison est narrative.
Très importante, celle-là.
Oui, le cerveau a une véritable phobie de l'ambiguïté. S'il lui manque des informations, eh bien, il arvente littéralement les pièces manquantes pour tisser une histoire cohérente. Il faut que le monde ait du sens, à tout prix.
Et l'impact de ces 5 raccourcis naturels prend des proportions dramatiques à grande échelle. Si on reprend l'étude de McKinsey dont on parlait au tout début, sur plus de 2000 décisions stratégiques analysées, l'intervention de ces biais entraîne une destruction de valeur colossale.
Les fameux 7 points.
Voilà, ça coûte en moyenne 7 points du retour sur investissement aux entreprises concernées.
7 points de ROI perdus, juste parce que le cerveau humain a besoin d'économiser de l'énergie. Pour bien imager cette mécanique dans notre contexte, on pourrait penser à un smartphone surchargé.
Très bonne image.
Bah oui, lorsque la batterie est dans le rouge et que le processeur surchauffe à cause de trop d'applications, le système d'exploitation ne vous consulte plus. Il ferme brutalement les applications en arrière-plan, il sacrifie les calculs complexes pour garantir la survie immédiate de l'appareil. Et le cerveau exécute exactement la même procédure d'urgence avec les données d'entreprise.
L'analogie est vraiment frappante. Sauf que ce sacrifice de précision, dans la réalité, ça peut engendrer des tragédies bien plus graves que de simples pertes financières.
Oui, les conséquences peuvent être fatales.
Le dossier qu'on explore analyse d'ailleurs en profondeur l'explosion de la navette spatiale Challenger en janvier 1986. C'est vraiment le cas d'école d'échec décisionnel absolu.
Un traumatisme mondial.
Tout à fait. Les ingénieurs de la NASA et de leur sous-traitant Thiokol savaient pertinemment que les joints toriques des propulseurs n'avaient jamais été testés par des températures négatives. Or, il faisait moins de degrés le matin du lancement. L'alarme a été donnée, la technique ordonnait formellement l'annulation.
Mais c'est ça qui est fou. Comment une organisation aussi pointilleuse, aussi scientifique que la NASA, a-t-elle pu ignorer une donnée aussi cruciale, aussi évidente ?
À cause de l'empilement des biais, tout simplement. La pression politique et médiatique sur la NASA était immense à ce moment-là. Plus personne ne voulait assumer un énième report. Et lors de la téléconférence fatidique, la veille du lancement, face à l'insistance des ingénieurs, un haut responsable a prononcé cette injonction terrible à l'intention du vice-président de l'ingénierie.
Qu'est-ce qu'il a dit ?
Il lui a dit « Retirez votre casquette d'ingénieur. Mettez votre casquette de manager. »
Ah, la phrase qui tue.
En clair, ça voulait dire « Arrêtez l'analyse technique rationnelle. Pensez aux conséquences pour l'organisation et pour notre image. »
73 secondes après le décollage, la navette explosait, coûtant la vie à 7 astronautes.
C'est glaçant. Et la commission d'enquête a formellement conclu que la technologie n'était pas la cause première. C'était une combinaison mortelle de biais d'autorité, de pensée de groupe et de biais de confirmation.
Et ça fait froid dans le dos parce que si le besoin d'économiser de l'énergie et de maintenir la cohésion sociale peut terrasser la rigueur scientifique de brillants ingénieurs en aérospatiale, comment cette mécanique de filtrage opère-t-elle dans le quotidien d'une entreprise standard ?
Eh bien, elle commence par altérer notre perception même de la réalité. Et ça, c'est bien avant qu'on ne prenne conscience qu'une décision doit être prise. C'est le royaume du biais de confirmation.
Le fameux biais de confirmation, on en entend beaucoup parler.
Oui, c'est cette tendance irrésistible de notre cerveau à rechercher, interpréter et mémoriser uniquement les informations qui valident nos croyances préexistantes.
On ne voit que ce qu'on veut voir.
Exactement. Et ce mécanisme explique la formation de ces fameuses chambres d'écho autour des hauts dirigeants. Les collaborateurs, ils filtrent naturellement les mauvaises nouvelles pour ne faire remonter que les données qui confortent la vision du patron.
Oui, personne n'a envie d'être le porteur de mauvaises nouvelles. Mais du coup, une fois que ce dirigeant est enfermé dans cette bulle de confirmation, j'imagine que son esprit devient particulièrement vulnérable à d'autres illusions, comme le biais d'ancrage.
Ah, le biais d'ancrage, c'est redoutable.
Imaginons une réunion de lancement de projet. L'équipe nage dans l'incertitude totale quant au délai. Et soudain, un manager lance au hasard « on devrait pouvoir livrer ça en 8 semaines ».
Le chiffre jeté en l'air.
Totalement. Ce chiffre n'a fait l'objet d'aucune étude technique. Pourtant, le cerveau s'y accroche. 3 semaines plus tard, l'analyse réelle des tâches démontre qu'il faudra au minimum 14 semaines. Mais l'encre a été jetée.
C'est trop tard.
C'est trop tard. Toute l'organisation va s'épuiser, faire des heures supplémentaires et sacrifier la qualité pour tenter de se plier à ce chiffre initial qui était purement arbitraire. L'encre définit la nouvelle réalité.
Tout à fait. Et ce mécanisme de perception biaisée s'applique aussi aux individus, avec ce qu'on appelle l'effet de halo ou son pendant négatif, l'effet de corne.
Comment ça se traduit concrètement ?
On observe ça massivement dans le domaine du recrutement. Un candidat entre dans la pièce, il a de la prestance, un vocabulaire très soutenu. En quelques secondes, le cerveau du recruteur détecte ses signaux positifs.
La fameuse première impression.
Voilà. Et par besoin de cohérence narrative, pour éviter la dissonance cognitive d'avoir face à soi une personne très éloquente mais peut-être incompétente, le cerveau déduit instantanément que le candidat possède toutes les autres qualités requises.
Là. Donc s'il parle bien, c'est qu'il est rigoureux, intelligent, leader ?
Exactement. La décision est prise en 2 minutes chrono et le reste de l'entretien d'embauche ne servira en fait qu'à chercher des preuves confirmant cette première impression. C'est le biais de confirmation qui vient renforcer l'effet de halo.
C'est fou. Et j'ajoute que notre perception des risques est-elle aussi totalement faussée par un autre piège, le biais de disponibilité. En fait, le cerveau évalue la probabilité d'un événement, non pas sur la base de statistiques réelles, mais sur la facilité avec laquelle un souvenir similaire lui vient à l'esprit.
L'incident récent qui marque les esprits.
C'est ça. Prenons un exemple classique tiré de nos sources. Une entreprise vient de perdre un client majeur à cause d'un défaut qualité très spécifique qui est survenu la semaine dernière. La direction panique totalement et réaffecte soudainement des budgets colossaux pour neutraliser ce risque précis, en délaissant d'autres secteurs qui sont pourtant vitaux.
Et ce qui est fascinant ici, c'est l'écrasement total de la donnée historique. L'organisation va ignorer des risques structurels beaucoup plus probables qui la menacent, simplement parce qu'ils ne sont pas chargés de la même intensité émotionnelle récente.
Mais là, il faut que je fasse l'avocat du diable une seconde. Si une entreprise s'appuie sur un incident douloureux et récent pour corriger le tir immédiatement, pour investir massivement là où ça a péché, N'est-ce pas tout simplement apprendre de ses erreurs? Et c'est ce qu'on appelle l'agilité organisationnelle d'habitude, non?
Cela soulève une question cruciale.
Ah!
Parce que, oui, l'apprentissage par l'erreur est bien sûr indispensable. Mais attention, le biais de disponibilité ne relève pas de l'apprentissage rationnel. Il relève de la surréaction émotionnelle.
D'accord, je vois la nuance.
Au lieu d'analyser l'ensemble des données sur, disons, 5 ans, pour évaluer la véritable probabilité qu'un tel défaut se reproduise, l'organisation agit sous le choc du traumatisme. Elle sacrifie la véritable priorisation globale des risques pour apaiser une angoisse momentanée. C'est de la gestion par la panique, ce n'est pas de l'analyse.
Je saisis parfaitement. Alors, si nos perceptions individuelles, nos intuitions et nos gestions des risques sont à ce point parasitées, que se passe-t-il lorsqu'on passe à l'action sur des dossiers à forts enjeux stratégiques?
C'est là que les dégâts deviennent spectaculaires.
Oui, c'est le moment où la perception faussée rencontre l'ego. On entre de plein pied dans l'illusion de maîtrise stratégique avec le fameux biais de surconfiance. Et attention, il ne s'agit pas d'un simple complexe de supériorité, hein.
Non, c'est beaucoup plus systémique que ça.
C'est la tendance à surestimer la précision de ses propres prévisions. L'analyse mentionne une étude vertigineuse publiée en 2005 par les chercheurs Malmondière et Tate. Ils ont étudié des centaines de dirigeants américains. Les résultats prouvent que les PDG identifiés comme surconfiants réalisaient 65% d'acquisitions d'entreprises de plus que la moyenne.
65%, c'est énorme.
C'est massif. Et pourtant, la rentabilité de ces opérations était désastreuse. En fait, ils confondaient leur propre optimisme avec la réalité du marché.
Et cette illusion de contrôle, c'est le carburant direct de l'un des pièges les plus dévastateurs pour une entreprise, l'escalade d'engagement.
Ah, l'escalade d'engagement.
C'est l'intersection fatale entre la finance et la psychologie. Quand un dirigeant a investi massivement dans un projet de recherche et développement qui tourne au fiasco, la logique pure voudrait qu'on arrête les frais immédiatement.
On coupe les pertes.
Voilà. Mais le cerveau refuse d'intégrer la perte du capital financier, du temps et surtout du prestige social qui a déjà été investi dans ce projet.
Ça me fait penser, c'est exactement comme s'obliger à finir un mauvais livre de 800 pages juste parce qu'on a déjà lu les 100 premières pages.
C'est exactement ça.
C'est irrationnel. Mais on se dit, j'ai déjà investi trop de temps pour abandonner maintenant. Et un dirigeant qui s'entête sur un produit que le marché rejette obéit exactement à la même impulsion irrationnelle.
Et pendant que l'organisation s'épuise dans cette escalade sans fin, eh bien, elle est incapable de pivoter à cause d'un autre biais, le biais de statu quo.
Encore un ?
Kahneman et Tversky ont mis en lumière le concept d'aversion à la perte. Ils ont démontré, études à l'appui, que la douleur psychologique ressentie lors d'une perte est deux fois plus puissante que la joie ressentie lors d'un gain équivalent.
Deux fois plus forte ?
Voilà pourquoi les grandes transformations d'entreprise finissent si souvent en simples retouches cosmétiques. Face au vertige d'une refonte totale, le cerveau anticipe la douleur potentielle du changement avec beaucoup plus d'intensité que les bénéfices promis. L'inaction devient la seule zone de confort tolérable.
C'est terrifiant. Et pour contourner cette peur de l'inconnu, les dirigeants ont inventé une méthode qui semble très scientifique sur le papier, mais qui cache un biais redoutable. Je parle du fameux benchmarking, qui est profondément altéré par le biais du survivant.
Le fameux benchmarking.
Oui, on décide d'étudier les meilleures pratiques du marché. Alors on sélectionne 3 entreprises concurrentes qui ont réussi, par exemple une intégration spectaculaire de l'intelligence artificielle. On dissèque leurs organigrammes, on copie leurs logiciels, on reproduit leur culture d'entreprise étape par étape et on est persuadé d'avoir trouvé la formule mathématique du succès.
Sauf qu'on analyse un cimetière en ne regardant que les vivants.
Exactement.
Ce que l'étude de référence Omed signalait, c'est que 40 autres entreprises ont scrupuleusement appliqué cette même formule. Elles ont utilisé les mêmes logiciels, copié la même culture et ont pourtant fait faillite. En ne sélectionnant que les vainqueurs pour tirer des règles générales, l'analyse stratégique s'aveugle complètement sur le véritable niveau de risque.
Arrivé à ce stade de l'analyse, je pense qu'une objection logique s'impose. Si un individu est à ce point vulnérable à ces raccourcis, que se passe-t-il quand on réunit 10 ou 15 de ces cerveaux défaillants autour d'une grande table de réunion? Est-ce que la délibération collective va agir comme un filtre naturel et corriger ses erreurs de jugement?
C'est ce qu'on aimerait croire, mais la littérature scientifique prouve très exactement l'inverse.
Vraiment l'inverse?
Ah oui. Loin de corriger les failles individuelles, la dynamique de groupe agit très souvent comme un puissant amplificateur. Le chercheur Irvin Janis a conceptualisé ce phénomène en 1972 sous le nom de « pensée de groupe ».
Le groupthink.
Oui, dans une équipe très cohésive, le besoin psychologique de maintenir l'harmonie sociale écrase totalement l'esprit critique. Les collaborateurs détectent des failles dans un projet, mais ils s'auto-censurent pour ne pas paraître déloyaux ou pour ne pas briser le consensus.
C'est le silence par conformité.
C'est ça. Paradoxalement, une réunion stratégique majeure qui se conclut par une approbation unanime et sans débat houleux, ça devrait être un signal d'alarme absolu pour tout dirigeant. L'unanimité rapide, c'est le symptôme direct d'un effondrement de la pensée critique collective.
C'est là que ça devient vraiment captivant.
Ah!
Parce que si le groupe ne modère pas les opinions, il fait bien pire. Il les radicalise. C'est ce qu'on appelle la polarisation de groupe. Et l'exemple historique de l'effondrement de Nokia est d'une limpidité cruelle à ce sujet.
Ah oui, Nokia.
En 2007, Nokia domine le monde. Il possède 40% des parts de marché mondial de la téléphonie. En interne, des équipes d'ingénieurs analysent le tout premier iPhone d'Apple et alertent la direction. L'interface entièrement tactile est une rupture technologique majeure qu'il faut investir de toute urgence.
L'alerte était bien là.
L'alerte était là. Mais la culture dirigeante de Nokia s'est bâtie sur la suprématie absolue du clavier physique et du téléphone robuste. Et lors des conseils de direction, au lieu de tempérer les certitudes de chacun face à ce nouveau concurrent, eh bien le débat collectif a provoqué une surenchère.
Ils se sont enfermés dans leurs certitudes.
Que le tactile n'était qu'un gadget fragile sans aucun avenir. Le groupe s'est enfermé dans son dogme avec une intensité qu'aucun individu isolé n'aurait pu atteindre tout seul.
Les conséquences ont été catastrophiques.
C'est le moins qu'on puisse dire. Le résultat financier, il est gravé dans l'histoire de l'économie. Une valorisation estimée à 110 milliards de dollars s'est effondrée, poussant Nokia à brader sa division mobile à Microsoft pour à peine 5,4 milliards.
C'est un naufrage collectif terrifiant. Et ça illustre parfaitement la convergence de la pensée de groupe et du biais d'autorité.
Le biais d'autorité? L'expérience de Milgram.
Transposable au monde du management, dès lors que l'avis du plus haut gradé dans la salle est exprimé ou même simplement deviné par l'audience, l'expertise factuelle des subordonnés se dissout instantanément. L'obéissance hiérarchique supplante la rationalité.
Les chiffres cités dans la source sont accablants à ce sujet. Selon une étude Gallup de 2022, à l'échelle mondiale, seuls 23% des collaborateurs se sentent psychologiquement en sécurité pour contredire frontalement les choix de leur management. 23%.
C'est dramatique. Le silence organisationnel est devenu la norme de survie.
Mais du coup, comment ces comités de direction en arrivent-tu à être aussi uniformes, à penser si exactement de la même manière? Pour comprendre la genèse de ce désastre cognitif, il faut remonter à la source même de l'organisation, la politique des ressources humaines et le recrutement. Et c'est ici qu'intervient le fameux biais d'affinité.
Le biais d'affinité, c'est le socle absolu de l'uniformité. La sociologue Lorraine Riviera a mené en 2012 une enquête extrêmement minutieuse sur les critères de recrutement au sein des cabinets d'élite, des banques d'affaires et des grands cabinets de conseil aux États-Unis.
Et qu'a-t-elle découvert?
Quelque chose qui détruit complètement le mythe de la méritocratie pure. À un certain niveau d'exigence, le critère de décision finale entre deux candidats brillants n'est plus du tout la compétence technique, c'est la chimie personnelle, la compatibilité culturelle.
Le feeling, comme on dit.
Voilà. Les recruteurs sélectionnent inconsciemment des profils qui partagent leurs codes sociaux, leurs loisirs, leur façon de penser. On cherche à recruter quelqu'un avec qui on aimerait être coincé dans un aéroport pendant 5 heures, quoi.
C'est très humain, ça semble garantir une bonne intégration, mais au fond, c'est du clonage social pur et dur.
Exactement. Et ce clonage élimine d'emblée la friction intellectuelle et la diversité cognitive qui sont pourtant indispensables pour combattre la pensée de groupe.
Et le pire, c'est que ce filtrage se poursuit tout au long de la carrière du salarié avec le cauchemar managérial de l'évaluation annuelle, un processus dominé par le biais de récence.
Ah, l'évaluation de fin d'année.
Face à la difficulté de synthétiser objectivement 12 mois de performances complexes, eh bien la mémoire du manager vacille. Le cerveau, par facilité, va accorder un poids démesuré aux événements des 3 derniers mois, effaçant presque totalement les succès ou les échecs du début d'année.
Ce qui est totalement injuste, mais neurologiquement logique. Et nous touchons là au paradoxe ultime du comportement humain, qui est magnifiquement défini dans nos sources comme le biais de l'angle mort.
Ah, c'est l'ironie ultime, ça!
Oui, c'est une forme de cécité sélective particulièrement ironique. Quiconque écoute cette analyse, en ce moment même, visualise très probablement les réunions de son propre comité de direction.
Ah oui, on met des visages sur les biais des autres.
Exactement. On repère avec une acuité remarquable l'escalade d'engagement de la direction générale, l'effet d'halo des recruteurs des RH, le biais de disponibilité des responsables des risques. Bref, les erreurs de jugement des autres nous sautent aux yeux.
C'est tellement évident chez les autres.
Mais le piège, c'est que notre cerveau nous rend totalement et parfaitement aveugles face à nos propres distorsions cognitives.
C'est une révélation d'une grande humilité au final. Le fait même de connaître l'existence de ces biais, de savoir les nommer, de les définir, ça ne nous immunise absolument pas contre eux. On ne désactive pas un réflexe neurologique millénaire juste avec un diplôme en management.
C'est la grande conclusion stratégique portée par nos sources aujourd'hui. Vouloir éradiquer ces biais par la seule volonté individuelle ou par des formations théoriques de sensibilisation d'une journée, c'est une totale illusion.
C'est peine perdue.
L'humain restera humain. Et au fond, c'est heureux. Car ce sont ces mêmes mécanismes impulsifs, identitaires et émotionnels qui tissent la loyauté des équipes. Ce sont eux qui font de la solidarité d'un groupe face à une crise majeure et qui génèrent un engagement féroce sur un projet totalement incertain.
Les biais sont le prix de notre humanité.
On ne peut pas soigner l'humain de sa propre nature. La véritable clé, elle réside dans l'ingénierie des processus. L'organisation mature doit concevoir des rituels qui institutionnalisent la contradiction et la culture du doute.
Concrètement, ça donne quoi ?
Eh bien, il faut forcer l'analyse des hypothèses inverses. Il faut nommer officiellement des avocats du diable, dans les comités, structurer l'anonymat dans certaines décisions clés pour casser le biais d'autorité. En bref, on ne change pas le cerveau humain, on modifie l'architecture de la décision collective pour le protéger contre lui-même.
C'est une approche extrêmement pragmatique. Et la piste évoquée à la toute fin de notre document source laisse entrevoir un horizon absolument fascinant sur l'avenir du leadership. Parce que face à la vulnérabilité intrinsèque de la cognition humaine qu'on vient de détailler, beaucoup regardent aujourd'hui vers la technologie comme l'ultime remède.
En effet, c'est la grande question. Si l'humain est par nature défaillant, est-ce que l'intégration massive de l'intelligence artificielle dans les processus décisionnels stratégiques signe le retour tant espéré de la rationalité parfaite ?
Le fameux Homo economicus sous forme d'algorithme.
C'est l'idée. L'algorithme pourrait-il enfin incarner cette perfection théorique pure et détachée de toutes émotions humaines ? Ou bien, à l'inverse, cette délégation algorithmique va-t-elle simplement engendrer des organisations d'une froideur absolue, dénuées de toute loyauté humaine, tout en abritant dans les profondeurs de leurs lignes de code leurs propres biais algorithmiques ?
Des biais invisibles cette fois.
Exactement. Des biais qui reproduisent les préjugés de leurs concepteurs, mais cette fois-ci de manière indétectable et à une échelle industrielle. C'est vraiment le prochain grand vertige du management moderne.
Et c'est sur cette perspective vertigineuse que s'achève notre exploration en profondeur des mécanismes décisionnels. Je rappelle que l'intégralité de cette passionnante présentation, consacrée aux biais cognitifs en entreprise et à leur impact, provient directement de l'espace de ressources lesclésdumanagement.com.
Un site incontournable ?
Tout à fait. La richesse documentaire de ce site constitue une base de connaissances inépuisable pour tout professionnel désireux de comprendre et d'optimiser ses pratiques managériales. Enfin, pour être certain de ne manquer aucune de nos futures analyses détaillées, on invite formellement tous ceux qui nous écoutent à s'abonner aux différents podcasts de notre réseau.
Ça garantit de rester informé en temps réel.
C'est ça. Pour ne manquer aucune nouvelle publication, les mécanismes invisibles de nos cerveaux n'ont pas fini de dicter leurs lois. Alors, mieux vaut apprendre à les observer de près. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur des sources.